cours aujourd'hui. Donc, pour ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Seul, qui est astrophysicienne et chercheuse CNRS à l'Observatoire de Paris, site de Meudon. Elle travaille au sein du laboratoire Univers et Théorie, donc le LUT. Elle a fait un doctorat sur les AGN, les noyaux actifs de galaxies. Alors à l'époque, il y avait deux doctorats, donc une thèse, tout d'abord sur les pulsars, et ensuite une thèse d'état sur les noyaux actifs. Elle a fait aussi un postdoc à l'ESO à Munich. Elle travaillait d'abord sur les modélisations, ensuite elle a évolué aussi vers les observations de tous ces phénomènes gamma. Et plus récemment encore, elle s'intéresse à l'instrumentation, donc elle prépare plein de nouveaux projets dans ces domaines de longueur d'onde, donc l'astronomie gamma. Et elle travaille sur les sources en général des rayons gamma, ça peut être les pulsars, les supernovas ou les trous noirs, évidemment. Elle va nous parler aussi de l'avenir de cette astronomie gamma, notamment avec le futur télescope CTA, donc Cherenkov Telescope Array. C'est à vous. Merci.
Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter les avancées du domaine de l'astrophysique aux très hautes énergies. Et je vais essayer de vous montrer comment cette branche récente de l'astronomie nous révèle une nouvelle image de l'univers qui s'organise autour d'astres qui se trouvent dans des conditions physiques extrêmes et qui représentent en fait de réels réservoirs d'énergie de notre univers. Alors, il y aura une petite introduction sur cette astronomie et les détecteurs actuels, puis je vous présenterai quelles sont les sources cosmiques principales qu'on observe à ces très hautes énergies, avec quels phénomènes et quelles émissions qui sont reliées. Vous verrez que c'est beaucoup tourné autour des phénomènes explosifs ou des résultats de phénomènes explosifs. Qu'est-ce qu'on peut aussi observer grâce à ce domaine d'énergie, mais qui ne relève pas nécessairement de tous ces mécanismes explosifs, mais qui sont révélés par l'interaction avec les produits de ces explosions. Après, je ferai une aparté sur la méthode de détection. Comment peut-on détecter ces rayons gamma cosmiques aux énergies extrêmes? Vous verrez qu'en fait, on les détecte depuis le sol, aux très hautes énergies. Et comment on peut améliorer les performances? Et puis, je présenterai le projet CTA de nouvelle génération qui vient d'être cité, et j'illustrerai l'implication de l'Observatoire de Paris dans ce projet. Donc, tout d'abord, une petite introduction sur le spectre électromagnétique, donc qui va de la radio jusqu'au gamma extrêmement énergétique. Donc, depuis l'aube de l'humanité, évidemment, les humains observent le ciel en lumière visible avec leurs yeux. Et ça a été comme ça pendant des siècles et des siècles. Et c'est à partir du XXe siècle qu'on a commencé à réussir à observer le ciel dans d'autres longueurs d'onde, donc en radio, en infrarouge, en ultraviolet, en micro-ondes, en rayons X. Donc vous voyez ici une énergie croissante en fonction de la fréquence ici. Et puis, plus récemment, en rayons gamma. Donc en rayons gamma, le domaine gamma est extrêmement large en fait, et on le décompose en deux parties. L'astronomie gamma spatiale, donc les rayons gamma qu'on peut observer depuis l'espace, au-delà de notre atmosphère, et l'astronomie gamma au sol, qui est la dernière branche à être née en astronomie, s'est développée à partir de 2004. Donc vous voyez que depuis la première observation de rayons gamma par Paul Villard, qui est rarement cité, mais qui en fait est le chimiste qui a fait les premières détections de rayons gamma à partir de radium en 1900, vous voyez qu'il s'est écoulé presque un siècle pour que vraiment l'astronomie gamma prenne son essor. Donc les premières détections depuis l'espace ont lieu dans les années 60, et puis quelques décennies plus tard, l'astronomie gamma au sol s'est vraiment développée. Donc mon exposé se consacrera surtout à cette partie extrême du spectre électromagnétique. Alors voici le ciel tel qu'on peut l'observer par une belle nuit depuis l'hémisphère sud, en optique donc, à l'œil nu. Et voici, en fausse couleur, comment on va voir notre voie lactée si on la détecte en rayon gamma. Donc vous voyez tout de suite qu'en fait, l'apparence est beaucoup plus piquée, ce qui évoque déjà le fait qu'il y a des émissions provenant d'astres très compacts, peu diffus dans un premier temps, qui va révéler donc autre chose que tout ce qu'on voit en général à partir de l'optique. Donc je parlerai pour cette zone aux énergies extrêmes, je l'appellerai souvent l'énergie du téraélectronvolt. Donc c'est le TeV, en fait c'est 10 puissance 12 électronvolts et c'est à peu près 500 milliards de fois plus énergétique que l'énergie d'un photon visible. Donc on est vraiment, c'est la même nature d'ondes électromagnétiques, mais on est vraiment dans un domaine quantitativement complètement différent. Alors cette énergie, cette astronomie gamma haute énergie, je vous dis que c'est la dernière à s'être vraiment développée. En effet, ici, vous voyez en fonction de la date, donc 1990 et là 2017, le nombre de sources détectées et confirmées à ces très hautes énergies. Donc vous voyez que c'est l'expérience S. Donc en 1989, on avait une source. 2004, on avait une petite dizaine de sources. Et 2017, on se trouve à plus de 200. Donc c'est l'expérience S ici qui, vers 2004, a commencé vraiment à faire des détections suivies par les expériences MAGIC Veritas. Donc ça a réussi à faire des cartographies de restes de supernovae et même cartographier des restes de supernovae qui n'avaient pas été vus dans aucun autre domaine de longueur d'onde. Donc vous voyez, il y a eu vraiment une montée en puissance du domaine assez impressionnante. Alors voici les instruments principaux actuellement qui fonctionnent. Bon, il y en a d'autres, hein, je n'ai pas été exhaustive ici. Donc vous avez Veritas aux États-Unis, vous avez MAGIC dans les îles installées sur l'île de La Palma aux Canaries, et ESS qui est installé en Namibie avec 5 télescopes, donc un très grand de 28 mètres de diamètre au centre. Donc c'est grâce essentiellement à ces expériences qu'on en est maintenant à plus de 200 sources cosmiques détectées et confirmées, donc des sources galactiques dans notre galaxie, des sources extragalactiques dans l'espace au-delà de notre galaxie. Donc maintenant, quelles sont ces sources essentiellement qu'on va pouvoir détecter aux très hautes énergies? Alors, en pratique, ce qu'on constate, c'est qu'on va explorer l'univers vraiment transitoire, l'univers cataclysmique et l'univers hors équilibre, non thermique, disons hors équilibre, et qui va se focaliser, enfin, qui va révéler les sites astrophysiques où il y a de grands écoulements de matière, où il y a des chocs, où il y a de la turbulence, où il y a des vitesses relativistes dans lesquelles vont pouvoir s'accélérer des particules, lesquelles vont rayonner en rayon gamma extrême. Donc on se trouve en fait avec une sorte de zoo de sites astrophysiques qui correspond plus ou moins à des sortes de centrales énergétiques de notre cosmos. Donc les étoiles binaires, certaines étoiles binaires et des vents stellaires très forts qui vont pouvoir entrer en collision et faire des chocs très énergétiques, des pulsars et des nébuleuses de pulsars, des supernovae, donc des explosions d'étoiles avec une partie éjectée à très grande vitesse et une partie centrale qui, au contraire, s'effondre sur elle-même, et leurs résidus, les restes de supernovae. Donc ça, c'est dans notre galaxie, disons. Et puis, au-delà de notre galaxie, des galaxies à noyaux actifs, avec un centre extrêmement énergétique, ou des galaxies où il y a de fortes formations d'étoiles, des jets relativistes, des éjections de plasma à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, des blazars et des radiogalaxies, vous voyez ici également des jets, un centre actif et des jets autour, des sursauts gamma, qui ont également des jets relativistes, mais dont le progéniteur est différent de celui des noyaux actifs de galaxies. C'est des phénomènes beaucoup plus cataclysmiques, les noyaux actifs de galaxies ayant une certaine stabilité sur le long terme, plus des éruptions qui se rajoutent dessus. Et puis, également, des possibilités d'explorer l'horizon, le voisinage proche de l'horizon des trous noirs. Et maintenant, qu'il y a eu des détections d'ondes gravitationnelles, d'essayer de trouver des contreparties électromagnétiques gamma à des collisions d'astres compacts observées potentiellement par les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc ça, c'est un exemple dans notre galaxie. J'ai pris le reste de supernovae SN 1006. Ah, je suis désolée, là, c'est un peu coupé. C'est pas coupé sur mon écran. Mais... Bon, donc SN 1006, vous voyez ici une carte composite où on voit des rayons X qui sont en bleu, en fausse couleur, évidemment. On n'est pas sensible à notre œil, on ne peut pas les voir. Et en rouge, plutôt la partie visible du spectre. Donc c'est la galaxie qui, c'est la supernova historique qui a été observée en l'an 1006 et qui semble avoir été extrêmement brillante. C'est peut-être la supernova la plus brillante observée de toute l'histoire de l'humanité. Et l'étoile est restée visible pendant plus d'un an et il semblerait qu'elle projetait presque des ombres sur la Terre, donc avec un éclat relativement comparable à un petit croissant de lune. Donc c'était vraiment une explosion extrêmement forte. Et cet objet, par exemple, parmi d'autres restes de supernova, a été observé par S. Et vous voyez ici en fausse couleur l'émission gamma très extrême qui apparaît des deux côtés, donc corrélée en partie avec l'émission X dont vous voyez les contours en blanc ici. Un autre exemple, c'est Eta Carinae, donc qui a été détecté plus récemment et qui est un système binaire qui est observé depuis des siècles et qui, en 1838, a démarré une très grande éruption. Donc, elle s'est mise à éjecter de façon intensive du gaz, de la poussière, et elle se retrouve dans un système très instable. C'est une étoile très massive en système binaire, dont la plus massive fait à peu près 100 masses solaires. Et c'est peut-être une étoile en état de pré-supernova. Donc, ce qu'on a constaté dans ce système, vous voyez ici ce qu'on appelle la courbe de lumière. Donc, c'est l'évolution observée du flux de cette source, donc de ce système binaire. Bon, là, il a été imaginé. On ne résout pas le système binaire, on le voit dans un point. Donc là, ça a été imaginé pour le comparer à la taille du système solaire. Donc, vous voyez une très, très grosse étoile et avec le compagnon beaucoup plus petit qui serait à peu près à la distance de Mars, ici. Et l'étoile est si grosse que Mercure serait englobée si c'était au niveau du Soleil. Et vous voyez ici une réelle image en visible et en UV proche de la nébuleuse autour du système d'étoiles qui est au centre là. Donc ça, vous voyez, ça évoque vraiment l'explosion. Et ça, ce n'est pas une vision d'artiste. Donc, quand on observe donc cet objet en rayons X, on voit au cours du temps les variations de son flux avec une très claire périodicité d'environ 5 ans. Ça, c'est un peu décalé, je suis désolée. Bon. Donc 5 ans, c'est la durée de la période du système binaire qui tourne. Donc il y a un pic à chaque fois que la petite étoile ici se retrouve plus proche de la grande étoile, donc quand elle passe au périastre. Et ELS a détecté des observations gamma et avec détection autour du périastre, donc quand la petite étoile passe proche de la grande étoile. Donc on pense observer là en fait des vents stellaires très intenses qui entrent en collision quand les deux étoiles se rapprochent et qui donnent lieu à ces émissions gamma. Donc, vous voyez ici une autre forme de pré-explosion, mais enfin de grande éruption qui sera peut-être suivie par une explosion de supernova. Un autre exemple dans notre galaxie, ce sont les nébuleuses autour des pulsars. Donc, vous voyez ici plusieurs cartographies par S, toujours en fausse couleur, évidemment. Donc, le jaune là, correspond au flux le plus intense, et le rouge, et puis après vers le mauve, correspond à une émission décroissante. Mais vous voyez qu'on a quand même une résolution angulaire suffisante pour pouvoir cartographier les sources. Donc, ce sont des nébulosités qui sont associées à des pulsars. Vous voyez ici, par exemple, le pulsar de Vela, avec sa nébulosité très asymétrique. Donc, un pulsar, en fait, c'est formé d'une étoile à neutrons qui est très magnétisée. Vous voyez ici les lignes de champ magnétique qui sont figurées. Donc ça, c'est une vision d'artiste, hein. mais qui illustre les lignes de champ magnétique très fortes. Et l'étoile tourne très très vite sur elle-même. Et ce faisant, il y a de forts champs électriques qui se développent à la surface de l'étoile. Et il y a des éjections de matière très relativistes. Et donc le pulsar, quand il tourne, quand l'étoile à neutrons tourne sur elle-même, finalement, il envoie un signal pulsé comme un phare quand le faisceau passe dans la direction de l'observateur. Mais ce faisant, il envoie énormément de particules dans le milieu interstellaire autour de lui et il donne lieu, il alimente cette nébuleuse autour du pulsar. Donc vous voyez ici un autre exemple où donc c'est un pulsar spécifique avec sa nébuleuse ici en fausse couleur. Donc le pulsar est ici et le blanc ici correspond aux énergies gamma les plus importantes. Et puis, les énergies gamma diminuent. Vous voyez ici les intervalles en gamma. Ça, c'est en dessous de 2 TeV. Là, c'est de 2 à 10 TeV. Et puis ici, c'est au-dessus de 10 TeV. Donc, il y a une sorte de fatigue de la matière quand elle s'éloigne du pulsar et elle est éjectée comme ça. Donc, c'est aussi un résidu d'une explosion gigantesque qui maintenant se traduit par cette émission de rayons gamma. Bon, on peut noter que quelques pulsars, quelques parties d'émission pulsées commencent à être détectées également, mais bon, je ne reviendrai pas. Donc, maintenant, on passe au-delà de notre galaxie. Donc, l'espace extragalactique, vu en gamma au téraélectronvolt, eh bien, c'est vraiment le royaume des trous noirs massifs. Donc, vous voyez ici une image composite, à nouveau, d'une radiogalaxie, avec un trou noir ici, le G, et puis toute l'émission X et autres autour de la zone centrale. Voici la même galaxie dont la vue en X, en radio et en optique, et là, à nouveau, une image composite. Et l'expérience S a détecté une très grosse émission provenant de toute cette zone centrale. Donc, vous voyez ici qu'on est limité en résolution angulaire, mais on voit qu'il y a une très forte émission, mais on n'arrive pas pour l'instant à cartographier aussi bien que ce qui a été vu en optique ou en rayons X. D'où l'envie, évidemment, d'améliorer les performances des instruments. Alors, vous voyez ici les capacités qu'on a pour essayer de sonder davantage les voisinages des centres actifs. Alors là, ce sont des observations qui ont été faites en radio sur... L'exemple ici, c'est la galaxie Messier 87. Donc, vous voyez ici la structure à grande échelle. Et puis, vous voyez ici, on va de plus en plus près du noyau actif. Et ici, vous voyez une animation, l'évolution temporelle du jet très près du trou noir. Ici, donc, vous voyez, on est à des résolutions de la milliseconde d'arc. Donc, on voit vraiment très, très près, c'est grâce à des travaux d'interférométrie en radio, en utilisant des radiotélescopes situés sur différents continents, dont on combine les données et qui permettent d'obtenir des résolutions aussi grandes. Donc là, on peut vraiment quasiment mesurer la vitesse des éjections de plasma à partir des cartographies et de l'évolution de la morphologie du jet. Et on peut confirmer que ce sont des vitesses extrêmement relativistes. Donc, la modélisation de ces centres actifs, dont là, j'ai mis un autre exemple de source avec un centre actif et puis des grands jets radio, une grande radiogalaxie, Hercules A, qui abrite un trou noir de plus de 10 puissance 9 masses solaires en son centre. Donc, le scénario qui s'est développé petit à petit pour les noyaux actifs de galaxies, eh bien, c'est un trou noir central, entouré d'un disque d'accrétion dans lequel la matière spirale et tombe petit à petit dans le trou noir, donc vient augmenter sa masse petit à petit. Et puis, dans certains cas, dont on ne sait pas encore exactement lesquels, il est possible que ce soit lié à la rotation de l'ensemble, mais dans certains cas, peut-être pour les trous noirs les plus en rotation ou les disques d'accrétion en forte rotation, des jets relativistes sont émis, qui on voit rayonner en radio et donc en gamma. Donc après, vous voyez que ce type de structure est extrêmement non symétrique. Donc vous imaginez très vite que suivant l'angle avec lequel on va regarder ces structures, on va voir toute une zoologie de sources. Et en particulier, quand on va regarder quand l'objet va être positionné de telle sorte que la Terre va être plus ou moins dans l'alignement du G, on va voir la source sous un aspect de blazar. Et les blazars ont la particularité que leur flux apparent est renforcé par les effets relativistes du G. Le G se déplaçant vers l'observateur à une vitesse relativiste, le flux apparent est augmenté d'un facteur 10, 100, voire 1000, ce qui fait qu'on a plus de facilité, évidemment, pour les détecter. Et on va voir encore plus de variabilité, parce que ça intensifie également la variabilité. Donc, avec les premières données gamma, ce qu'on a vu surtout aux très hautes énergies, ce sont des blazars. Et petit à petit, avec la sensibilité qui augmente, on voit d'autres types de sources, de sources de ce type noyau actif de galaxie. Donc, bon, là, je vais peut-être passer rapidement, mais disons, c'était pour illustrer la complémentarité entre les observations gamma qu'on fait depuis l'espace et les observations gamma qu'on fait depuis le sol. Donc, depuis l'espace, on observe les rayons gamma relativement peu énergétiques. Et depuis le sol, on observe les rayons gamma très énergétiques. Alors, le fait est que les rayons gamma très énergétiques, il y en a moins. Mais depuis le sol, on peut construire des surfaces collectrices très, très grandes. Donc, même s'il y en a moins, on réussit quand même à les voir. Et elles sont tellement énergétiques, on verra un peu plus loin, qu'elles réussissent à interagir avec l'atmosphère et à donner une trace jusqu'au sol. Par contre, les rayons gamma moins énergétiques, eux, ils vont être absorbés par l'atmosphère, donc il faut vraiment aller au-dessus de l'atmosphère pour les voir. Mais ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont moins énergétiques, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, ce n'est pas grave s'il faut aller au-dessus de l'atmosphère, parce qu'on peut satelliser des surfaces collectives plus petites. Et comme ils sont nombreux, on réussit tout de même à les voir. Donc ça, c'est vraiment une belle complémentarité des deux techniques spatiales et au sol, qui se traduit par le fait que maintenant, grâce aux deux techniques, on réussit à sonder vraiment l'émission, ce qu'on appelle le spectre d'émission des sources actives. Donc vous avez ici le domaine d'énergie. Hein, là, le TeV va se retrouver ici, le téraélectronvol se trouve ici. Et là, le GeV, c'est 10 puissance 9 électronvolts, le TeV, c'est 10 puissance 12, se trouve ici. Donc le GeV, c'est le domaine du spatial, et le TeV, c'est le domaine de l'observation depuis le sol. Donc vous voyez qu'on peut combiner les données ici qui viennent de Fermi, en rouge, avec les données ici, en bleu, qui viennent de Hess, et avoir une bonne définition de l'émission en fonction de l'énergie. Donc une fois qu'on a ce genre de données, eh bien, en plus, c'est au niveau du pic d'émission, donc elle donne de fortes contraintes sur les modèles radiatifs qu'on va pouvoir faire. Et ces modèles radiatifs, on va voir qu'ils mettent en jeu des émissions d'électrons ou des émissions de protons. Donc, munis de ces informations, on peut développer des modèles théoriques et des scénarios avec les codes numériques associés qui permettent généralement d'assez bien reproduire ce qui est observé au niveau des spectres moyens. Voilà, donc en appliquant les scénarios d'émission, donc là vous voyez l'émission depuis la radio jusqu'au téraélectronvolt. Donc vous voyez, il y a un pic qui vient au niveau de l'infrarouge ici, et puis un deuxième pic qui vient au niveau des rayons X durs et des gamma. Voilà, donc ces deux pics d'émission sont assez caractéristiques des noyaux actifs de galaxies. Et en appliquant les modèles développés par les équipes et disponibles actuellement, on peut calculer, en essayant évidemment d'ajuster les données, on peut calculer les champs magnétiques, les densités, les vitesses dans les zones d'émission. Et donc petit à petit faire émerger et confirmer ou infirmer des scénarios. Alors il y a une complication qui vient des phases éruptives. On voit dans ces noyaux actifs de galaxies, en particulier les blazars, avec ces jets relativistes qui viennent vers nous, c'est vraiment extrêmement... La moindre instabilité va se développer de façon très, très grande. Donc, il y a des phases éruptives qui donne des évolutions très, très rapides. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'était en 2006, un blazar qui a eu deux sursauts énormes. Vous voyez, son état stationnaire, c'était à peu près à ce niveau, quoi, en flux. Hein, bon, là, voilà. Et puis, tout d'un coup, son flux a été multiplié par un facteur 10, voire plus. Et puis, quelques jours plus tard, il y a eu un deuxième sursaut, comme ça. Alors là, ceci dit, ça devient beaucoup plus compliqué de vraiment reproduire ce genre de choses. On arrive à générer des sursauts, mais générer toute une série de sursauts comme ça, ça commence à devenir presque un peu comme une météo, disons. Alors on ne sait plus très bien si vraiment quels sont les paramètres fondamentaux qu'il faut croire, sur lesquels il faut s'appuyer pour vraiment remonter à ce genre d'émission. D'autant plus que si on regarde plus en détail, par exemple là, le premier sursaut, donc là, c'était l'échelle de la journée. Ici, c'est l'échelle de la minute. Vous voyez qu'il y a encore des variations à l'échelle de quelques minutes. Et ces variations sont si grandes qu'en fait, on en déduit que la zone d'émission doit être extrêmement petite, tellement petite qu'elle se rapproche beaucoup de la taille de l'horizon du trou noir. Donc ça paraît quand même extrêmement difficile d'avoir des émissions dans des zones aussi petites. Ou alors qu'il faut que le jet soit très relativiste et que du coup le temps de la variabilité est compressé par les phénomènes relativistes. Donc actuellement on s'en sort en disant que le jet est très relativiste et que c'est à cause de ça qu'on a des variabilités sur des échelles de temps aussi courtes. Et on a divers modèles de jet qui sont à l'étude pour décrire ces évolutions temporelles. Donc on se retrouve avec des inhomogénéités dans les jets qui se baladent. Bon, disons là, les modèles ont encore besoin de progresser pour être mieux contraints. Alors, je voudrais dire un petit mot, avant de quitter cette partie de l'exposé, sur quelque chose de très récent, donc qu'on a tous envie de faire maintenant, c'est de rechercher des contreparties gamma associées aux signaux aux récents signaux obtenus par nos collègues en ondes gravitationnelles. Alors, vous avez tous entendu parler de la première détection directe d'ondes gravitationnelles, donc qui a été observée en 2015 et publiée en 2016, et qui, en plus de la détection de ondes gravitationnelles, nous a apporté un élément absolument fabuleux, qui était une preuve directe de l'existence des trous noirs. Parce que pour les astronomes comme moi qui travaillaient sur les noyaux actifs de galaxies avec des trous noirs au centre et on développait toute une physique comme ça autour des trous noirs, on n'avait quand même pas encore la preuve absolument absolue et directe de l'existence de ces objets. Il y avait quand même des alternatives possibles et vraiment c'est cette première détection qui a vraiment amené il y a eu une telle similarité entre les courbes théoriques de la fusion de trous noirs, de deux trous noirs, et les courbes observées, que vraiment on voit mal maintenant comment des alternatives aux trous noirs pourraient vraiment tenir fortement la route. Alors il peut y en avoir évidemment, mais disons, là, franchement, on les a presque vus de façon directe, quoi. Donc ça, c'était vraiment extrêmement important. Et je voudrais aussi souligner que cette première fusion observée de trous noirs, ça a été l'explosion la plus forte jamais observée par l'humanité, hormis le Big Bang. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres explosions beaucoup plus fortes, évidemment, mais c'est la première fois que l'humanité a observé une explosion aussi forte. Donc l'énergie qui a été envoyée dans toutes ces ondes gravitationnelles qui ont balayé le cosmos a été extrêmement intense. Donc tout ça prouve qu'il y a eu vraiment l'ouverture d'une nouvelle perspective sur notre univers. Et puis, tout récemment, donc on en était là, on se disait, bon, ce serait bien si on pouvait détecter. Alors, ça veut dire pouvoir détecter en rayon gamma, ça veut dire pouvoir réagir très, très vite. C'est-à-dire, il faut des réseaux d'alerte, donc que les détecteurs d'ondes gravitationnelles préviennent très vite la communauté astrophysique, qu'ils ont vu quelque chose, et que les grandes expériences, les grandes infrastructures puissent se dépêcher et pointer dans la bonne direction. Alors, il y a un problème, c'est que les boîtes d'erreur des ondes gravitationnelles ont encore tendance à être très, très grandes, mais heureusement, ils ont réussi petit à petit, ils réussissent à les réduire. Donc, très récemment, en août dernier, il y a eu l'observation d'un phénomène nouveau qui était la fusion non pas de deux trous noirs, mais de deux étoiles à neutrons. C'est-à-dire, donc, deux étoiles à neutrons, ça veut dire que lors de cette fusion, il y a eu énormément de plasma qui s'est dégagé de cette fusion, alors que lors de la fusion de trous noirs, on peut penser que la matière autour tombe dans le trou noir et qu'il ne reste plus grand-chose pour émettre en rayon gamma. Mais là, avec une collision d'étoiles à neutrons, il y avait énormément de matière, et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des détections en gamma spatial. Donc, ici, c'est l'observation, là, c'est le temps en secondes, hein, qui s'est écoulé après l'événement de fusion. Donc, il y a eu des observations par les satellites gamma, et puis toute la communauté astrophysique a petit essayé de pointer dans la bonne direction. Donc, ça a été le premier télescope au sol à pointer dans la bonne direction. Donc ça veut dire qu'il y avait un algorithme très performant qui a permis de pointer très vite. Ceci dit, la détection n'a pas été faite parce qu'il n'y avait peut-être pas d'émission à de telles hautes énergies ou il y a quand même eu un certain temps qui s'est écoulé à partir de l'événement et l'émission a peut-être décru. Mais ceci dit, ça met des contraintes intéressantes et c'est vrai qu'on a là aussi envie de développer des performances meilleures pour pouvoir observer ça de façon plus précise. Donc l'astronomie gamma à très haute énergie, voilà, je pense avoir là maintenant bien illustré qu'elle nous montre un univers transitoire, turbulent, cataclysmique, et elle trace vraiment le squelette énergétique de notre univers, avec des flots très relativistes qui vont donner lieu à de l'accélération de particules. Et ça fournit, disons, une sorte de vision structurante de l'univers autour des réservoirs d'énergie et des accélérateurs de particules. Alors, maintenant, je parle beaucoup d'accélération de particules. Je vais juste essayer d'illustrer un peu comment ça peut se faire, hein, parce qu'on a des accélérateurs de particules sur Terre, mais on les construit spécifiquement pour pouvoir accélérer. Bon, qu'est-ce qui se passe dans le cosmos pour accélérer des particules ? Eh bien, il y a plusieurs types d'accélération autour des astres compacts. Il peut y avoir des champs électriques, comme autour des pulsars. Il peut y avoir des forces centrifuges. Il peut y avoir des reconnexions magnétiques, bon, où la structure du champ magnétique est complètement modifiée. Il y a de l'énergie magnétique qui est transmise aux particules. Mais les mécanismes qui sont les plus universellement utilisés dans le cosmos semblent être des mécanismes de Fermi, donc, qui ont été trouvés par Fermi dans les années 40, où les particules déjà un peu énergétiques sont accélérées de façon encore plus efficace dans des plasmas peu denses. Alors, une façon de visualiser un peu ce qui se passe, c'est de faire une analogie avec un jeu de tennis. Alors, on va dire que la balle, c'est la particule, et que cette balle, elle va interagir avec des nuages magnétiques. La particule va interagir avec des nuages magnétiques comme la balle interagit avec les raquettes et est tenue par les joueurs, c'est-à-dire des raquettes qui vont pouvoir être en mouvement. Et ce faisant, ça va transmettre de l'énergie à la balle ou à la particule. Donc si, vous voyez, là, c'est une particule qui interagit avec une inhomogénéité magnétique qui ne bouge pas. Donc, paf, paf, elle rebondit, il ne se passe rien. Là, pareil, sur une raquette qui ne bouge pas, il ne se passe rien non plus, elle arrive à la vitesse V, elle repart à la vitesse V. Par contre, s'il y a un joueur là, qui active la raquette et qui donne un coup, eh bien, il va accélérer la balle et lui transférer de l'énergie. Ceci dit, s'il donne un coup dans l'autre sens, enfin, si au lieu de donner un coup, il amortit le choc, alors là, la balle va être ralentie. Mais ce qui se passe, c'est que les collisions frontales sont plus nombreuses que les collisions comme ça où on amortit le choc. Donc, en pratique, la particule, ici, j'en reviens à la particule, quand elle va arriver sur un nuage magnétique, un miroir ou un mur magnétique, eh bien, elle va rebondir. Et si ce mur magnétique se déplace vers la particule, il va lui transmettre de l'énergie et la particule réfléchit et va être globalement accéléré. Donc, évidemment, c'est une analogie qui a des limites, mais ça donne quand même l'idée de comment ça se passe. Donc, il faut un plasma pas trop dense, avec des inhomogénéités, et des particules qui rebondissent d'une inhomogénéité à l'autre. Alors, Avec cela, on se retrouve typiquement avec deux types de mécanismes de Fermi. Des particules qui rebondissent sur des milieux inhomogènes, donc qui rebondissent sur des inhomogénéités de façon un peu aléatoire, ou des particules qui rebondissent de part et d'autre d'un choc. Alors, quand ça se passe autour d'un choc, en général, c'est beaucoup plus efficace parce que ça favorise beaucoup les chocs frontaux. Donc, ça favorise les collisions où il y a vraiment un grand transfert d'énergie. Voilà, donc ça, ça donne un peu une idée de comment on monte en énergie. Et une fois qu'on a monté ces particules en énergie, donc ça va être essentiellement des protons ou des électrons, eh bien, elles vont pouvoir rayonner. Donc, et en rayonnant, elles vont pouvoir expliquer les deux bumps que je vous ai déjà illustrés, donc qui montent ici le flux en énergie, le flux observé en fonction de l'énergie. Donc ici, on a la radio et ici, les téraélectronvolts. Donc avec deux bosses comme ça. Donc deux familles d'émissions, toutes les deux à base de particules accélérées. Dans la famille leptonique, eh bien, on accélère des électrons. Et ces électrons, ils vont tourner dans un champ magnétique en émettant un rayonnement synchrotron, qui est bien connu, qui va donner la bosse à basse énergie. Et l'interaction de ce rayonnement synchrotron avec des photons et des électrons de background va pousser les photons de background, enfin les particules, les électrons, excusez-moi, les électrons ici très énergétiques, déjà accélérés, vont interagir avec des photons de basse énergie et qu'ils vont booster aux très hautes énergies par un effet qu'on appelle l'effet Compton inverse et qui va être responsable de la bosse aux très hautes énergies donnant les rayons gamma. Sinon, il y a une autre famille de mécanismes qui, lui, fait appel à la physique hadronique, donc la physique des protons, l'accélération de protons. Donc là, je suis désolée, vous ne voyez pas. Ici, il y a un proton très énergétique qui va interagir avec de la matière ou avec un fond de proton qui va se désintégrer en créant des pions et, en particulier, le pi0 lui-même va se désintégrer en deux photons gamma qui vont rayonner au téraélectronvolt et créer la bosse à très haute énergie. Donc, finalement, c'est relativement simple parce qu'on a ces deux familles d'émissions. Donc, le cadre est assez agréable, disons. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir étudier de plus? Parce que là, on est allé carrément, on a vu, bon, ben voilà, en photon gamma très énergétique, eh ben, on voit les sources très énergétiques. Bon, ça paraît logique, mais en fait, ce n'était pas complètement évident non plus. Et ceci dit, on peut aussi voir d'autres choses en regardant en rayon gamma très énergétique. Parce que donc ces accélérateurs de particules, eh bien, ils vont générer ce qu'on appelle des rayons cosmiques, donc ces fameuses particules très accélérées, lesquelles vont se propager dans l'espace interstellaire et interagir avec le milieu interstellaire, donc créer des réactions, interagir avec les molécules, créer des réactions chimiques. Donc il y a toute la physique des nuages interstellaires, du milieu interstellaire, qui va être touchée par ces choses-là. Il y a toute la physique, évidemment, des rayons cosmiques eux-mêmes et des neutrinos. Donc ça s'ouvre sur toute l'astronomie multimessager. Je crois que vous aurez une conférence bientôt sur cette astronomie multimessager où on essaie de corréler les informations venant en neutrinos, en rayons cosmiques et en rayons gamma, voire ondes gravitationnelles. Et puis, il y a aussi, quand les photons gamma se déplacent depuis des distances extrêmes, eh bien, ils interagissent avec les milieux traversés. Donc, ils vont interagir en particulier avec les fonds diffus en infrarouge qui proviennent de toute la lumière des étoiles et des galaxies de toute la vie de l'univers. Ça crée un fond diffus dans lequel les photons gamma se propagent et avec lesquels ils interagissent. Il y a aussi une possibilité de rechercher des signatures de matière noire. On y reviendra rapidement. Et également de rechercher... Alors là, c'est vraiment des projets, à haut risque. Ce n'est pas du tout sûr qu'on réussisse à trouver ça, mais ce serait extrêmement intéressant de mettre en évidence des structures extrêmement fines de l'espace-temps qui illustrerait des effets de gravité quantique. Donc, des effets, la gravité quantique, c'est des théories qui sont, une théorie qui est encore à trouver. Il y a plusieurs, alors il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, mais il y a en fait plusieurs façons de faire pour essayer de concilier à la fois l'approche relativité générale avec l'approche physique quantique. Donc, on se retrouve là dans un domaine encore très étudié, mais encore mal connu. Et on pourrait éventuellement, en regardant la propagation des rayons gamma très énergétiques dans le cosmos, trouver des informations. Donc, pour illustrer les milieux diffus que je vous ai mentionnés ici dans les nuages interstellaires, eh bien, vous voyez ici la région du centre galactique vue par S, dans lequel ici on a soustrait les sources compactes et on met en évidence toute une zone diffuse qui se retrouve corrélé avec un marqueur moléculaire. Donc là, très vraisemblablement, ce sont les protons très énergétiques qui interagissent avec le gaz interstellaire et qui donnent lieu à l'émission de rayons gamma. Bon, là, c'est... Bon, je vais passer. Voilà. Une autre... Bon, ça, c'est pour illustrer ce que je vous évoquais donc, aux frontières de la physique actuelle. Si on regarde la propagation des photons dans le cosmos. Donc, s'il y a des effets de gravité quantique, cela pourrait introduire une dispersion de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire que les photons gamma de très haute énergie n'arriveraient pas tous au même moment. S'ils sont émis du même endroit au même instant, ils ne vont pas avoir tout à fait la même vitesse. Ce serait pas, disons, on aboutirait à ce qu'on appelle... l'invariance, violation de l'invariance de Lorentz, disons, la vitesse de la lumière serait différente pour les photons extrêmement énergétiques à cause d'effets de gravité quantique et de mousse quantique dans l'univers. Alors ça, c'est loin d'être trouvé. Une des difficultés, c'est qu'on n'a pas de phare qui nous envoie dont on soit sûr qu'il nous envoie un signal émis au même moment, au même endroit. Donc, il faut se baser sur des sources qui fluctuent et bien les contraindre pour être sûr que la référence soit bonne. Bon, après, il y a des phénomènes de création de particules aussi qui peuvent se passer lors de la propagation et des phénomènes d'absorption. Donc, le photon gamma interagit avec les milieux diffus et crée des paires électrons-positrons qui vont le ralentir. Donc là, c'est une autre façon d'illustrer cette absorption. Pardon. Donc vous voyez ici une source lointaine avec les photons gamma émis qui traversent cette zone avec donc tout ce fond diffus. Et si le spectre émis est très dur, disons, comme ceci, en fait, l'absorption va pouvoir le transformer en spectre très mou, beaucoup, beaucoup moins énergétique à cause de toute l'énergie perdue sur la ligne de visée. Donc, j'ai un petit schéma. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un petit schéma ici qui illustre davantage. Donc, les photons émis aux très hautes énergies qui interagissent avec les milieux, qui créent des cascades de paires électrons-protons, et qui réinteragissent plusieurs fois, et à chaque fois, qui perdent un peu d'énergie. Donc, il y a une partie d'entre eux qui réussit à aller jusqu'à l'observateur, et une autre partie qui se disperse un petit peu, donc qui peut éventuellement créer des zones, des halos étendus autour du blazar initial, ou créer des émissions retardées. Donc, pour l'instant, on ne les a pas observées, mais c'est vrai que ça pourrait être un jour détectable, et que ça permettrait de fixer les choses. Donc, juste pour mentionner, et avant de conclure cette partie, il y a aussi des enjeux aux très hautes énergies pour essayer de trouver des signatures indirectes de matière noire en cherchant des zones où il y aurait beaucoup de matière noire, dont certaines particules s'annihileraient, en créant une émission spectrale qui pourrait être détectée. Donc, actuellement, on n'a toujours pas détecté ce genre de signature, mais si on améliore la sensibilité des instruments, on devrait commencer à pouvoir contraindre de façon très ferme les différents modèles, en particulier des modèles standards de matière noire, commencer à vraiment éliminer certains modèles et favoriser d'autres modèles de matière noire. Voilà, j'en viens maintenant à la méthode de détection de ces rayons gamma cosmiques. Alors, en fait, le détecteur, la première partie du détecteur, eh bien, c'est l'atmosphère. Donc, si vous avez un proton énergétique qui arrive en haut de l'atmosphère, il va interagir et créer une gerbe de particules secondaires qui va descendre dans le gaz atmosphérique jusqu'au sol. Et les particules sont des particules qui vont aller extrêmement vite, plus vite que la vitesse de la lumière dans le gaz atmosphérique. Et du coup, elles vont émettre un rayonnement qu'on appelle Tcherenkov, du nom du physicien soviétique qu'il a trouvé. Et ce rayonnement Tcherenkov est un petit peu aux ondes électromagnétiques, ce que le bang supersonique est aux ondes sonores. C'est-à-dire donc ces particules qui vont extrêmement vite, plus vite que la lumière, que la vitesse de la lumière dans le gaz atmosphérique, elles rayonnent, comme l'avion qui va plus vite que la vitesse du son dans le gaz atmosphérique rayonne une onde sonore sous forme de son banc supersonique. Et pareil, si un photon gamma arrive en haut de l'atmosphère, il va lui aussi déclencher une gerbe, et c'est ce genre de gerbe qu'on va détecter avec les instruments. Donc vous voyez, dans les deux cas, les gerbes de protons sont beaucoup plus larges que les gerbes de photons, et c'est cet indice qui va nous permettre de distinguer s'il s'agit d'une gerbe de photons ou d'une gerbe de protons. Donc, première partie du détecteur, l'atmosphère qui déclenche toute cette physique. Et donc, voilà la gerbe qui se crée et qui rayonne par rayonnement Tcherenkov et qui va venir se refléter dans les miroirs, être envoyé sur la caméra sensible ici. Et on va avoir une image de la gerbe sous forme d'une petite ellipse. Donc l'étude de cette image de gerbe va permettre de remonter aux caractéristiques de la particule incidente ou du photon incident. Il faut voir que ces signaux sont ténus et sont de quelques nanosecondes. Donc ils sont très faibles et ils sont très très courts. Donc il faut réussir à avoir une électronique extrêmement rapide pour accumuler toutes ces images de gerbes et pour pouvoir ensuite les analyser. Voilà, j'en viens à la dernière partie de ma présentation. Donc, vous voyez, l'idée, en fait, c'est que pour améliorer les performances, eh ben, il va falloir avoir davantage de télescopes, parce que si on a plus de télescopes, on va pouvoir faire de la stéréoscopie, observer la même gerbe par plusieurs télescopes, et du coup, on va faire de la stéréoscopie, on va avoir une image à trois dimensions de la gerbe et préciser encore mieux les caractéristiques de la gerbe et les propriétés de la particule incidente. Donc plusieurs télescopes, des télescopes de différentes tailles pour s'adapter à l'énergie et au nombre des gerbes. Et c'est ces considérations-là qui ont présidé à la proposition du projet CTA, Tcherenkov Telescope Array, qui propose de construire plusieurs dizaines de télescopes, dont des grands télescopes de 23 mètres, pour étudier les gerbes les moins énergétiques, plus nombreuses mais plus faibles. Donc il faut une grande surface collectrice, mais dans un petit domaine. Des télescopes de taille intermédiaire de 12 mètres et des petits télescopes de 4 mètres, dont les petits télescopes, eux, observe les gerbes extrêmement énergétiques qui sont beaucoup plus lumineuses. Donc, une petite surface de miroir suffit à les voir, mais elles sont beaucoup moins nombreuses. Donc, il faut sonder une grande surface au sol, donc un réseau de petits télescopes très étendu pour pouvoir collecter suffisamment de statistiques. Alors, ça, c'est un exemple de ce qu'on voit actuellement dans une zone de la Voie lactée et du plan galactique et ce qu'on pense qu'on pourrait voir avec CTA. Donc vous voyez, par rapport à Fermi actuel à basse énergie, on fera un saut de plusieurs ordres de grandeur en sensibilité. pourra faire des cartographies détaillées, des courbes lumières très précises, des spectres de haute qualité, dont améliorer toutes les performances, avoir un domaine spectral qui va vraiment aller depuis le domaine de Fermi, donc l'astronomie gamma spatiale, jusqu'à 300 téraélectronvolts, alors qu'actuellement on est limité à une dizaine typiquement de téraélectronvolts. Et puis fonctionner avec des modes opérationnels variés, sous alarme ou faire des monitorings, des surveys. Comme il y a plusieurs dizaines de télescopes, on peut aussi tous les mettre vers une même source ou au contraire observer plusieurs sources en même temps. Donc c'est un projet très ambitieux avec 32 pays qui ont rejoint, plus de 200 instituts et plus de 1000 membres. Il y a deux sites qui ont été choisis pour les observations, un au sud, un au nord, au Chili et aux Canaries. En France, il y a trois instituts qui sont impliqués avec plusieurs labos, CNRS, CEA et Observatoire de Paris. Donc voilà, le site sud, il va être au Chili, près de Paranal. Et le site nord, certaines constructions ont commencé, il est à La Palma, ici aux îles Canaries. Donc là, c'est une photo du site chilien. Donc vous voyez, il faut des zones extrêmement sèches parce qu'on a besoin d'une très très bonne transparence du ciel. Par contre, la qualité de turbulence est moins gênante parce que comme on travaille à quelques nanosecondes, la turbulence atmosphérique est moins gênante. Mais par contre, il faut une très très bonne transparence du ciel et puis évidemment une très bonne météo. Donc il y a plusieurs télescopes, dont il y a eu des prototypes qui ont été faits, trois prototypes de petite taille, parce qu'il faudra 70 petits télescopes sur le site sud, un prototype de taille intermédiaire, et alors le grand télescope, il n'y a pas eu de prototype qui a été construit, c'est un premier télescope de série qui démarre sa construction aux îles Canaries actuellement. Voilà l'agenda. Eh bien, on est actuellement, on va entrer en phase de pré-production. On a terminé la phase de prototypage et ce qu'on appelle de pré-construction. Donc, on espère entrer en 2018 en pré-production. Et là, on a appris récemment qu'il y avait un soutien de la France pour 2018. Donc, avec une production qui s'étalera au-delà de l'horizon 2021. Pour vraiment compléter l'ensemble des deux réseaux, sud et nord. Donc il faut voir que, voilà, vous voyez un schéma de notre propre galaxie vue de dessus. Donc avec les instruments présents, on arrive grosso modo à voir à cette distance, hein, le Soleil étant ici. Donc on voit à peu près à cette distance. Bon, si on insiste, on voit un peu plus loin, mais grosso modo, pour des observations standards, on voit ça. Avec CTA, on verra toute la galaxie. Là, vous voyez un exemple sur le nuage de Magellan, vu en optique. Là, c'est à peu près ce qu'on voit avec S, vous voyez, 3-4 sources. Et voilà ce qu'on verra avec CTA. Disons, c'est des modèles, hein, mais en faisant une extrapolation par rapport à nos connaissances actuelles, on devrait, dans le domaine de sensibilité de CTA, voir toutes ces sources. Donc, bon, on présente souvent les choses comme ça, comme différents icebergs en descendant la sensibilité. On va voir de plus en plus de sources parmi les familles de sources qu'on connaît déjà. Eh bien, on va augmenter les statistiques, donc on va pouvoir entrer dans une nouvelle phase d'étude. Et puis, par contre, pour les sources qu'on suspecte d'émettre à ces énergies, mais qu'on ne voit pas encore, on espère réussir à émerger de l'iceberg. Alors, très rapidement, parce que j'en viens à la fin de mon temps, je veux dire quelques mots sur l'implication de l'Observatoire de Paris. Donc, évidemment, on est très impliqué sur la science avec CTA, sur l'analyse et la mise à disposition à la communauté des futures données, et aussi sur les télescopes de 4 mètres, avec le projet GCT de Gamma-ray-Cherenkov Télescope, donc qui se positionne pour CTA dans la partie très hautes énergies. Vous voyez, donc c'est une partie où on espère ouvrir cette fenêtre aux énergies extrêmes de plusieurs téraélectronvolts jusqu'à 300 téraélectronvolts. Donc le projet consiste en un télescope avec un design nouveau qui n'a jamais été construit en astronomie avant CTA et qui paraît spécialement bien adapté à l'astronomie gamma parce qu'il permet d'avoir un grand champ dans un petit espace. Donc un grand champ de vue de plusieurs degrés, mais dans un petit espace qui permet d'avoir des caméras avec des détecteurs nouveaux de type Silicon PM. Mais des caméras restent tout de même légères et autorisent tout de même à avoir un très grand champ. Donc là, je vous illustre l'installation à Meudon, donc la structure porteuse de l'optique en 2015, le système Altazimut qui va faire tout le mouvement du télescope, l'assemblage, donc avec le système, la structure porteuse de l'optique qui est installée là sur le système Altazimut, les miroirs, le miroir secondaire installé également en 2015 et le miroir primaire qui est pas encore totalement complet, qu'on est en train d'essayer de compléter. Et puis l'installation de la caméra sur le télescope fin 2015 et la première nuit d'observation où on a effectivement détecté, ça c'est la toute première gerbe cosmique. Vous voyez ici, elle apparaît au cours du temps. Là, c'est un pixel brillant. Hop, 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 là, voilà. Vous voyez, mais ça, c'est quelques nanosecondes. Ici, c'est 40 nanosecondes et là, 50 nanosecondes. Donc, c'est vraiment des petites pitchenettes. Mais on en voit des milliers et des milliers. Donc, on reconstruit l'émission à partir de ces milliers de mini-images de gerbes atmosphériques. Voilà l'inauguration, fin 2015, après la première obtention de la lumière Tcherenkov. Et puis, après ça, on s'est engagé dans une longue phase de validation avec de nombreux tests qu'il y avait à faire pour montrer qu'on justifiait toutes les spécifications de CTA, en termes de précision, d'efficacité de l'entraînement, de réflexivité des miroirs, de qualité de l'image, de précision du pointage, du suivi des sources, de la sécurité, évidemment. Donc les vitesses, par exemple, de déplacement en azimut et en élévation. Donc en azimut, c'est le déplacement comme ça, hein, en élévation, c'est le déplacement comme ça, pour aller pointer n'importe quelle direction dans le ciel, n'importe quelle source. On y va en moins de 60 secondes. Donc, tout ça est à transmettre. Il y a toute la documentation à transmettre à CTA pour proposer le télescope pour contribuer au réseau de très hautes énergies. Donc là, cette petite vidéo a été prise par un drone, en fait, à l'occasion du 350e anniversaire de l'Observatoire de Paris. Et il illustre un peu toutes les mesures qu'on a dû faire avec notre télescope. Donc, on a eu aussi au printemps une deuxième campagne d'observation. Vous voyez là d'autres images de gerbes. Et vous voyez ici leur évolution temporelle. Donc, vous voyez à chaque fois systématiquement quelques nanosecondes. Là, c'est 20 nanosecondes. Et ici, une autre gerbe avec ici le pic du temps d'arrivée. C'est une autre façon de montrer les choses. Donc, ça, c'est en foncé, c'est les temps d'arrivée à 46 nanosecondes. Et en clair, c'est à 54 nanosecondes. Donc la gerbe est arrivée, tchac, comme ça, dans ce sens-là. Donc évidemment, tout ça permet de contraindre la particule initiale et de reconstruire petit à petit les sources. Donc suite à tous ces tests, on a l'équipe technique a travaillé pour. Donc c'est l'équipe technique est à l'Observatoire de Paris, essentiellement à Meudon. Et à développer tout le design, il y a eu des sous-traitances auprès d'industriels pour les différentes parties du télescope, mais l'équipe a effectué l'assemblage, les tests, et là, après tous les tests, il y a eu une optimisation du design et du concept pour vraiment se focaliser sur les bonnes interfaces avec CTA, voir les nouvelles spécifications que CTA avait pu introduire, renforcer certains points où harmoniser certains autres pour être avoir des interfaces plus faciles avec les autres télescopes. Et nos collègues donc anglais, allemands, hollandais, japonais développent de leur côté la caméra Tcherenkov qui s'installe donc ici sur le télescope. Voilà, je termine là. Donc, comme conclusion, eh bien, on espère à l'horizon 2021 et quelques avoir deux grands yeux gamma installés sur la planète. Voilà.
Merci beaucoup Hélène pour cette très belle présentation. Donc on va passer aux questions, si vous avez des questions. Oui, ici.
Eh ben, merci pour cet exposé, c'était très bien. Il y a 2 ans, quand il y a eu la coalescence des 2 trous noirs, il me semble qu'ils ont dégagé l'équivalent de 3 masses solaires d'énergie en onde gravitationnelle. Mais l'énergie dégagée en rayon gamma, c'est seulement fonction de ce qu'il y a autour des trous noirs.
Oui.
Eux-mêmes, ils ne dégagent aucun rayon gamma.
Disons.
Donc on ne peut pas prévoir.
Là, on touche vraiment à un domaine où on ne sait pas encore bien, parce que ça paraît un peu... Bon, pour les gens qui font de la réalité générale, ils disent non, on ne verra rien, le trou noir, il fusionne, tout tombe dans le trou noir, ils sont en coalescence, et puis tout le reste, voilà, on ne voit rien d'autre. Pour un astronome, souvent quand même, le cosmos est plus compliqué. Il y a quand même souvent des gaz, du gaz, du plasma, des nuages qui passent par là. Donc, s'il y a un plasma même ténu autour, on voit difficilement comment il ne serait pas accéléré ou emballé par cette fusion. Mais il y a peut-être un phénomène qui fait que tout le plasma est balayé quand le système binaire de trous noirs commence vraiment à se rapprocher. Je pense que là, la description physique n'est pas encore totalement disponible. Donc, il y a un peu l'idée que l'émission gamma va plutôt apparaître dans le cas de fusion d'étoiles à neutrons, c'est-à-dire d'astres où il n'y a pas d'horizon. La différence entre l'étoile à neutrons et le trou noir, c'est quand même surtout que l'étoile à neutrons, elle a une surface solide, quoi. Donc il y a vraiment, si les 2 étoiles à neutrons, quand elles vont coalescer, il va y avoir un choc, hein, il va y avoir des éjections de plasma extrêmement importantes, de la matière. Donc là, il va y avoir de la turbulence, il va y avoir des chocs, et il va y avoir de l'accélération de particules. Et très certainement, là, il y a de l'émission gamma. Maintenant, si on fusionne les trous noirs...
Et puis le micro.
Ah, pardon.
C'est la batterie, je regarde.
Ah, pardon.
Non, je ne vais pas le toucher. Là, comme ça ?
Ouais.
D'accord.
Il s'est mis sur mute.
Bon. Oui, donc il est possible que vraiment, ça c'est le futur qui nous le dira, quand on aura vraiment réussi à surveiller ces fusions de trous noirs, à réussir à pointer les instruments très très rapidement, juste après la fusion, pour voir si vraiment il n'y a rien d'émis en gamma ou à d'autres énergies, mais en photon, quoi. S'il n'y a aucun photon d'émis, est-ce que vraiment tout tombe dans le trou noir ? Ça paraît, pour moi, ça me paraît un peu difficile à imaginer, mais peut-être qu'il y a un phénomène vraiment fondamental qui fait que effectivement, ça va être le cas. Pour l'instant, en tout cas, on a vu donc de l'émission électromagnétique, gamma, optique, radio, dans le cas de la fusion de 2 étoiles à neutrons. Et pour l'instant, il y a eu 3 ou 4 événements de fusion de trous noirs. Personne n'a encore rien détecté aux autres longueurs d'onde, disons. On en est là, quoi.
Alors, une autre question ?
Oui, je vois que tout fonctionne avec l'effet de Cherenkov. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, c'est un peu mystérieux pour moi, qu'est-ce que c'est ? C'est une longueur d'onde, 65, 62 angstrom, je ne sais pas quoi. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette lumière et comment elle est émise quand même ?
Oui.
C'est spécial.
Oui, donc c'est vrai que je suis passée un peu vite là-dessus. Donc l'effet de Cherenkov apparaît quand... l'objet va plus vite que l'onde qu'elle va pouvoir émettre. Donc j'ai évoqué l'analogie avec l'avion supersonique. Donc l'avion supersonique, il va pouvoir émettre un son, disons, mais quand il va passer à une vitesse supérieure à la vitesse du son, il va en fait envoyer une onde de choc, avec un choc très fort, un bang supersonique. Eh bien, la particule dans le gaz atmosphérique, c'est ça qu'elle va faire, si ce n'est que l'onde, c'est plus une onde sonore, c'est une onde électromagnétique. Parce qu'elle va, pas, elle va plus vite que la vitesse du son, mais elle va surtout plus vite que la vitesse de la lumière dans le milieu. Parce que le milieu, dans un gaz, la vitesse de la lumière n'est pas égale à la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, dans un gaz, la particule peut aller plus vite que la vitesse de la lumière dans le gaz. Et ce faisant, elle émet ces ondes électromagnétiques. Une particule accélérée, elle rayonne des ondes électromagnétiques. Donc là, si elle va plus vite que la vitesse de la lumière, son rayonnement, en fait, crée une espèce de front de choc, comme ça, qui est le rayonnement de Tcherenkov.
Est-ce qu'il y a une seule fréquence ou une gamme de fréquences de rayonnement
de Tcherenkov ? Il y a une gamme de fréquences et c'est rayonné essentiellement dans un cône. Dans un cône. Et disons, ce qui se passe, c'est que ce rayonnement secondaire, donc la particule qui arrive, c'est un photon gamma ou un rayon cosmique, mais le photon gamma, il est aux très hautes énergies, mais le rayonnement secondaire des particules créées par l'interaction du photon gamma ou du rayon cosmique dans la haute atmosphère, le rayonnement Tcherenkov secondaire, lui, se fait dans des longueurs d'onde de l'optique ou de proche UV. Donc, ça permet, c'est vrai que ça, j'aurais dû le préciser, mais j'étais un peu prise par le temps, mais ça permet effectivement d'observer avec des miroirs un peu... Enfin, il y a une certaine communauté avec l'optique, quoi, puisque finalement, le messager final, c'est du rayonnement en optique ou en proche UV. C'est ce rayonnement de Tcherenkov qui est en optique et en proche UV. Pardon ? C'est des photons. Enfin, c'est un rayonnement. Disons, vous savez, il y a la dualité onde-particules. Alors là, on est en plein là-dedans. Les rayons gamma, ce sont des photons. Et c'est aussi une onde électromagnétique. Mais souvent, ils se comportent un peu comme une particule. Quoi. Mais là, une fois qu'on a le rayonnement Tcherenkov, lui, c'est un rayonnement électromagnétique qui se retrouve dans les longueurs d'onde de l'optique et du proche UV. Je vous en prie.
Une autre personne ? Question ? Oui.
Bonsoir. Dans l'espace, du coup, vous pouvez les détecter directement ou vous utilisez les mêmes méthodes ou... Non, j'imagine que non, il n'y a pas d'atmosphère.
Alors, dans l'espace, donc, on va pouvoir détecter les rayons gamma de basse énergie, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, et on peut les détecter sur des surfaces plus petites, des miroirs plus petits, qu'on va pouvoir envoyer, qu'on va pouvoir satelliser. Parce que des surfaces de 28 mètres carrés, c'est quand même très, très difficile pour l'instant de les satelliser. Par contre, avec des détecteurs beaucoup plus petits, on va pouvoir détecter les rayons gamma de basse énergie depuis l'espace. Par contre, pour la détection avec ces gerbes atmosphériques qui rayonnent le rayonnement Tcherenkov, il faut vraiment qu'on soit sur Terre parce que, ou sur une planète qui a une atmosphère, parce que la première partie du détecteur, c'est l'atmosphère. C'est l'interaction du rayon gamma ou de la particule énergétique avec la haute atmosphère qui déclenche toute cette cascade de gerbes avec des particules secondaires qui rayonnent par effet Tcherenkov. Donc, on ne pourrait pas faire ça depuis la Lune, par exemple, parce qu'on n'aurait pas la partie du détecteur qui... Vous voyez ? On pourrait se tourner vers d'autres types de détection, mais ce serait... Bon, c'est notre technique, quoi.
La question suivante.
Vous avez parlé de la plantation à nouveau d'un instrument. Cependant, les conditions ne paraissent pas identique et en tout cas aussi favorable que sur ces deux sites-là.
Ah oui, 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 bien sûr, tout à fait. Donc là, c'était vraiment pour la phase de prototypage. parce que le design qui a été construit, donc c'est un télescope avec deux miroirs, avec un plan focal très proche du miroir secondaire. C'est un design qui n'avait pas encore été construit par les astronomes, parce qu'il s'est avéré vraiment prometteur pour l'astronomie gamma, mais pour l'astronomie optique, il avait différentes difficultés, donc il n'avait pas été construit. Donc on voulait vraiment pouvoir le tester vraiment bien, au niveau expérimental, disons, avant de le proposer pour l'envoyer sur un site astronomique. Donc la qualité du site de Meudon nous a tout de même permis de faire une énorme quantité de tests. On n'a pas testé l'observation finale en elle-même, disons, mais on a vraiment testé tout un tas de performances du télescope et du détecteur. Et c'était beaucoup plus facile, évidemment, d'avoir le télescope sur le campus, parce que pour faire tous ces tests, ça nous a pris 2 ans pour faire tous ces tests. Donc s'il avait fallu aller régulièrement au Chili, enfin, ou aux Canaries, enfin, c'était, là vraiment c'était par moments un travail quotidien de l'équipe, des ingénieurs et des techniciens sur le télescope. Donc c'était très utile de l'avoir vraiment sur le campus. Ceci dit, on s'engage maintenant dans la phase de pré-production où justement on veut construire un premier télescope de série. Et celui-là, on l'enverra, enfin on espère pouvoir l'envoyer sur, parce qu'il y a encore des enjeux qui doivent être décidés, mais on a maintenant quand même un bon soutien qui se dégage. Donc pouvoir l'installer au Chili dans un site astronomique vraiment de très grande qualité. Alors ceci dit, le site de Meudon, il représente un petit peu un site bien meilleur, mais pour des nuits où il y a la pleine lune, par exemple. Vous voyez ? Parce que le fond de ciel est beaucoup plus lumineux quand il y a la pleine lune. Donc, une nuit sans lune et une nuit de très, très bonne qualité à Meudon commence un peu à se rapprocher à une nuit de mauvaise qualité avec la pleine lune sur un site astronomique. Donc, ça permet aussi de tester certaines performances des détecteurs. Parce qu'on aimerait bien, avec CTA, pouvoir observer... Jusqu'à présent, vous voyez, les détecteurs, il faut qu'ils détectent des petites pattes de mouche à la nanoseconde. Donc, il faut qu'ils soient hypersensibles. Du coup, on travaille beaucoup sans lune du tout, parce que sinon, les détecteurs, enfin, on risquerait de les faire griller, quoi. Enfin, il y a plusieurs techniques, mais il y a quand même un risque, dans certains cas, de faire griller les détecteurs s'il y a des lumières parasites. Donc, on essaie de travailler maintenant pour CTA, pour élargir la quantité de nuits et d'heures d'observation, de pouvoir aussi observer pendant les nuits avec la lune, donc de baisser la tension à laquelle sont soumises les détecteurs pour pouvoir observer avec la lune. Donc de ce point de vue-là, le site de Meudon a aussi un intérêt, parce que avec sa mauvaise qualité et son fond de ciel très important, il mimique un petit peu une nuit de qualité pas très bonne, enfin, et avec la lune sur le site chilien, quoi. Voilà.
Alors, on a le temps encore pour une question. Oui.
Bonjour, madame. Je voulais savoir de quoi sont constitués les détecteurs pour pouvoir attraper, si je peux m'exprimer ainsi, de si courts instants, quelques nanosecondes.
Oui, alors, bon, là, c'est une électronique extrêmement compliquée. Je dois avouer que moi, je ne suis pas spécialiste des caméras, mais j'ai... Voilà. Voilà, j'ai ici une image de la caméra. Donc, on a d'abord des détecteurs, ici, qui sont des multi-anodes photomultiplicateurs ou des SIPM, hein, des photomultiplicateurs au silicium, ici. Et puis, après, on a tout un système de comptage des coûts qui sont arrivés, de stockage, de digitalisation de l'information qui progresse dans tout ce module avec une électronique ultra rapide.
Est-ce que vous avez envisagé d'utiliser des bolomètres qui sont très sensibles, donc ?
Alors, non, ça ne doit pas être adapté, parce que là, il faut voir que ce sont des petits détecteurs Là, le module, le détecteur en lui-même, il fait 6 mm typiquement. Le petit silicon PM de base, il fait 6 mm. Et là, le module, donc c'est plusieurs silicon PM qui sont réunis, il est à 5 cm. Et la caméra elle-même doit être très légère et très petite. Et elle fait 45 cm. Donc je pense que ces bolomètres, ce serait de toute façon...
Les bolomètres, c'est quelques millimètres, c'est... Oui. C'est 5 mm à peu près. Oui. On les met en groupe, évidemment.
Oui.
Et c'est très sensible.
Oui, mais est-ce qu'après, ça peut travailler à la nanoseconde?
Comment?
Est-ce que ça peut travailler à la nanoseconde?
Je ne sais pas, c'est ma question.
Ah oui, non, je pense que là, bon, moi, je n'ai pas étudié moi-même cette question, mais bon, il y a eu énormément de travaux par mes collègues qui développent les caméras. Donc, ils ont fait tout un tas de tests sur tout un tas de détecteurs et ils ont tous évolué vers le fait... Bon, il y a certaines solutions qui fonctionnent avec des photomultiplicateurs plus traditionnels, mais les solutions pour les petits télescopes se sont portées sur ces SIPM, typiquement, dont il y a eu un choix vraiment sur les SIPM. Là, je suis désolée, je ne pourrais pas vous dire exactement qu'est-ce qui explique ce choix-là de façon quasi définitive pour l'instant, disons.
Oui.
Si je peux me permettre une seconde question. Vous avez parlé de matière noire, d'études de la matière noire avec des photons gamma.
Oui.
Alors qu'on ne connaît pas la matière noire. Alors qu'est-ce que c'est, quelles sont les idées en cours qu'on a là-dessus?
Oui. Donc, suivant... justement, on ne connaît pas la matière noire, mais il y a plusieurs théories qui sont proposées. Donc, on a quand même certains scénarios, des neutralinos ou d'autres types de particules. Donc, quand on se place dans le cadre d'un scénario... On peut, si on donne des valeurs aux paramètres décrivant la matière noire, décrire quelles vont être ses capacités de désintégration dans les endroits où il y aurait beaucoup de matière noire. Elle va s'annihiler en interagissant, et donc s'il y en a une grande quantité, il va y avoir un petit peu de désintégration de ces particules qui vont émettre du rayonnement. Par exemple, des raies spectrales. Et suivant, disons, si on ne voit rien, bon, ben, on ne voit rien, donc on a des bornes supérieures. Donc si, par ailleurs, on a un modèle, on a l'idée d'une masse globale de matière noire qui devrait être dans tel volume, et on a un modèle pour la matière noire, on peut en déduire quelle signature spectrale elle devrait donner. Et si on ne réussit pas à avoir cette signature, même en descendant, en améliorant notre sensibilité, ça va finir par dire ben, ce modèle, il ne marche pas. Alors, après, on ne va peut-être pas pouvoir tout contraindre parce que ces instrumentations que j'ai montrées là, elles sont sensibles dans un certain domaine. Donc, on va pouvoir contraindre certaines théories sur la matière noire, voilà, dont certaines relativement standards et reconnues. Donc, disons, ce n'est pas que des théories marginales, il y a vraiment des théories assez standards qui sont du domaine qui peut être exploré par CTA. Et donc, si, en insistant, en faisant des observations et observations sur des zones où on pense qu'il y a beaucoup de matière noire, mais il faut aussi qu'il n'y ait pas beaucoup d'autres choses. Parce que s'il y a beaucoup de matière noire, mais qu'il y a une émission gamma très intense par ailleurs, ça noie le signal de la matière noire. Donc on se retrouve à regarder plutôt, par exemple, dans des galaxies naines, qui ne sont pas trop lointaines, où on pense qu'il y a une accumulation de matière noire et qu'il n'y a pas de raison d'avoir de fortes émissions gamma par ailleurs. Donc on peut viser pendant de très longtemps sur ces galaxies pour essayer de contraindre et de descendre nos limites supérieures sur la quantité de matière noire dans ces galaxies. Et quand on atteindra les prédictions des modèles, eh bien, soit on va faire la détection, soit on ne fait pas la détection, et du coup, ben, c'est que le modèle est à revoir.
Ça voilà. Veut dire qu'il faut que vous attendiez le nouveau système pour faire tout ça?
Donc, on essaie déjà, avec les instruments qui sont actuellement disponibles, on a déjà des limites supérieures, Et on commence à se rapprocher des prédictions de plusieurs modèles. Mais bon, il est clair qu'un bond en sensibilité d'un facteur 10 va vraiment améliorer les choses, quoi. On va entrer vraiment dans le domaine vraiment contraignant, quoi.
Quelqu'un d'autre ? Une autre question ? Bon, s'il n'y a plus de questions, on va remercier Hélène encore.
Merci à vous. Bonne fin de soirée.